Radio de la Paix, il est 18h. Le journal de 18h, Jean-Claude Mabéa.
Bonsoir à tous. À Bogué, dans le Haut-Sassandra, et à Sominassé, dans le Bunkani, il est 18h. Bienvenue à cette édition. Tout de suite, les titres. Célébration ce jeudi de la 8e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance invite les actuels et potentiels lanceurs d'alerte à les rejoindre dans cette lutte contre ce fléau. Et le Premier ministre qui rassure quant au respect des engagements internationaux en la matière, vous les entendrez en début de ce journal. Vous attendrez tour à tour le président de la HAB et le Premier ministre. Dans cette édition, nous irons à Odienné où la 41e promotion des élèves maîtres du CAFOP en fin de cycle ont effectué leur sortie officielle et cette sortie a été marquée par une journée de salubrité dans les services publics. Et puis, dans l'actualité sur le continent, le président algérien Abdelmadjid Tebboune brigue un second mandat. Voilà pour l'essentiel. Vous écoutez Radio de la Paix, bienvenue à ce dernier point sur l'actualité qui s'ouvre sur la célébration ce jeudi de la 8e édition de la journée africaine de lutte contre la corruption. Et c'est la salle de conférence de la primature à Abidjan Plateau qui a servi de cadre. Placée sous l'égide de l'Union africaine, celle-ci a porté sur le thème « En faisant du mécanisme de protection efficace des lanceurs d'alerte, outil essentiel dans la lutte contre la corruption ». Avant la conférence inaugurale, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zoro Balo, a rappelé l'intérêt et les enjeux de cette célébration.
La célébration de cette journée vient nous rappeler qu'il nous appartient d'emboîter le pas à plusieurs autres pays membres de la Convention des Nations Unies contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine contre la corruption, d'emboîter le pas à ces pays et de ne pas nous arrêter uniquement à la protection des dénonciateurs des actes de corruption et infractions assimilées. Le dispositif ivoirien actuel protège les dénonciateurs dans le cadre de leur rapport avec les actions judiciaires, mais la Convention de l'Union africaine et la Convention des Nations Unies nous invitent à aller plus loin dans notre stratégie politique, dans notre texte réglementaire, en incluant de façon claire et sans embâge les lanceurs d'alerte. Je me réjouis de cette cérémonie car je reste convaincu qu'elle contribue d'ores et déjà à semer les graines de demain qui produiront de jeunes Ivoiriens consciencieux de l'intérêt général et non pas mus dans leurs actions par des intérêts égoïstes que sont ces Ivoiriens nouveaux, chers au cœur du président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara.
Le Premier ministre chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a à son tour rassuré les uns et les autres quant au respect des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire dans ce domaine en vue de l'amélioration du dispositif légal en faveur de la protection des droits humains. On l'écoute.
Conscient qu'il reste encore du chemin à parcourir, car le phénomène auquel nous attaquons est complexe et changeant, nous entendons poursuivre sans relâche nos efforts. L'évidente nécessité de protéger les lanceurs d'alerte commande donc que des réflexions soient menées pour jeter les bases d'un plaidoyer sur l'adoption des lois à propos. Je voudrais donc vous assurer de notre parfait intérêt et de notre volonté affichée de saisir toutes les initiatives visant à rendre efficace le combat continu contre la corruption en Côte d'Ivoire. Dans cette optique, je voudrais rappeler la récente adoption par le gouvernement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2024-2028, prenant en compte la problématique relative à la protection des lanceurs d'alerte. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de notre pays et de la ferme volonté du président de la République de respecter les engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire et ce, en vue d'améliorer constamment le dispositif légal en faveur de la protection des droits humains et garantir le bien-être de chaque citoyen.
Les propos du président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobalo, et du premier ministre Robert Begré-Mambé ont été recueillis par César Yao. Le président de la Commission électorale indépendante, CEI, a animé mercredi à Abidjan-Cocody une conférence publique axée sur le thème de l'élection. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la campagne d'éducation civique et électorale menée depuis quelques semaines par l'institution dans des universités et grandes écoles du pays. Sur la crédibilité de la CEI et de ses membres, les explications d'Ibrahim Koulibaly-Cuibière.
Pour moi, la crédibilité se trouve dans l'expression du suffrage. Est-ce que le peuple peut exprimer sa volonté? C'est tout. Si le peuple peut le faire, c'est l'essentiel. Sinon, si vous vous attendez à ce qu'on dise que la CEI est crédible, parce qu'ils sont tous représentés, mais est-ce qu'il y a meilleure crédibilité qu'une institution dans laquelle vous tous vous êtes représentés? Toi, tu as désigné quelqu'un, lui, il a désigné quelqu'un, celui-là a désigné quelqu'un. Vous tous, vous avez désigné des gens, et puis vous dites que ce n'est pas crédible. Mais pourquoi tu as désigné les gens alors? Et c'est vous-même qui avez demandé à ce que la commission électorale soit créée. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Au départ, c'était le ministère de l'Intérieur. Parce que figurez-vous que les normes qui encadrent l'élection en Côte d'Ivoire sont au nombre de deux essentiellement. Il y a la loi et il y a les accords politiques. Tu dis que c'est quand tu seras présent que la commission sera crédible. Bon, on met ton représentant parce que le RHDP a son représentant, hein. Le PDCI a son représentant, hein. Le PPACI a son représentant, hein. La société civile a ses représentants, hein. Les institutions de la République ont leurs représentants, hein. Ils sont tous là, hein. La crédibilité vient d'où? Pourquoi on ne regarde pas dans le sens de ceux même qui sont les acteurs? Pourquoi c'est toujours l'organe qui est en charge des élections qui doit être crédible? Mais vous aussi, vous devez être fair play.
Voilà, c'était le président de la Commission électorale indépendante CEI, Ibrahim Koulibaly-Cuibière. Tout autre chose dans cette édition, transport urbain dans le Grand Abidjan. Les travaux de la ligne de BRT, le bus rapide transit reliant Benjerville à Yopougon, ont été lancés mercredi par le Premier ministre. Chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Christelle Yesso était présente lors de cette cérémonie de lancement, suivant son compte-rendu.
Après les bénédictions des chefs traditionnels, le ministre des Transports, Amadou Koné, énonce les caractéristiques du BRT.
Un système ferme de 20 km de couloir de BRT, 21 stations avec un dépôt à chaque extrémité de la ligne, des stations fermées avec un système de diétique automatique. La flotte sera composée de bus articulés de 18 mètres avec une capacité de 160 passagers.
Pour l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le bus rapide transit sera un véritable gain de temps pour les populations.
D'ici 3 à 4 ans, un habitant de Benjerville aura ainsi prendre le BRT, puis changer à Adjamé pour prendre le métro jusqu'à Trècheville dans des conditions de confort et de sécurité.
Également présent, le vice-président régional de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, relève l'avantage économique du BRT pour le pays.
Une amélioration de la mobilité urbaine à Abidjan de l'ordre de 20% pourrait engendrer un gain de croissance du PIB d'environ 1%.
Robert Begré-Mambé a par ailleurs rassuré les populations avant de lancer le top départ pour les travaux.
Nous mettrons tout en œuvre pour minimiser les désagréments pendant la période de construction. Je voudrais engager tous les acteurs afin que les délais annoncés soient respectés. Je déclare lancer les travaux de construction du BRT entre Yopougon et Benjerville.
Le BRT reliant Benjerville à Yopougon mesurera 20 km de long et comptera 21 stations pour plus de 500 emplois directs.
Parlons à présent de santé reproductive et sexuelle. En Côte d'Ivoire, environ 288 000 avortements sont enregistrés annuellement. Pour sensibiliser sur l'avortement comme un acte de santé, un atelier de formation sur la santé reproductive et sexuelle a eu lieu ce mercredi à Abidjan, précisément dans la commune du Plateau. Et cette formation vise à renforcer les compétences des journalistes ivoiriens. Organisée dans le cadre du projet PAMOJA, ce dernier vise à sécuriser l'avortement en Afrique en mobilisant la société civile. Angela Kegba, spécialiste en communication pour la santé et formatrice, explique ici l'objectif de cette formation.
Les perceptions que les gens ont de l'avortement dépendent des représentations que les médias font de l'avortement. Au lieu de placer l'avortement dans son cadre précis, qui est celui de la santé, celui de la science. Donc, nous avons comme objectif de sensibiliser les journalistes, plus parler des questions d'avortement, en replaçant vraiment l'avortement dans son cadre originel. La Côte d'Ivoire a ratifié sans réserve le protocole de Maputo. Et cela lui fait obligation de sécuriser l'avortement, donc de rendre l'avortement médicalisé, d'ouvrir le champ. Parce que le protocole de Maputo, il a un caractère juridique et sur le plan international, il est au-dessus de tout ce qui est à l'interne. Et donner la possibilité aux femmes de recourir à ce soin médical, parce que le soin de l'avortement est intimement lié au droit à l'autonomie, au droit à l'intégrité, à un traitement humain. Lorsqu'on criminalise l'avortement, on entraîne les femmes indirectement vers l'avortement clandestin, l'avortement à risque qui compromet leur santé de la reproduction. Puisqu'il y a beaucoup de décès de femmes du fait de ces avortements clandestins à risque.
Vous écoutiez à l'instant la spécialiste en communication pour la santé et par ailleurs formatrice Angela Keija. La troisième réunion de pilotage du projet Planète Gold, organisée par le Centre africain pour la santé environnementale, en abrégé CASE, s'est tenue vendredi 5 juillet dernier dans la commune du Plateau. Le projet Planète Gold vise la régularisation du secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or en Côte d'Ivoire. Les détails avec Jean-Mylène Bitti.
Dr V. Amunan, point focal de la convention de Minamata au ministère de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique, dont les objectifs de cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Planète Gold.
La troisième réunion du comité de pilotage du projet Planète Gold a pour objectif d'orienter le projet, de faire des propositions et valider les activités réalisées et à venir.
Inaki Rodriguez, gestionnaire de projet à l'ONU Environnement, revient sur l'apport de son institution.
On fait la gestion et le pilotage de ces projets. Non, on donne des conseils, des soutiens techniques, même des soutiens financiers aux différentes parties prenantes de ces projets pour, entre tout, fournir les énergies nécessaires pour réussir dans le défi que c'est l'amélioration du secteur de nos paillasses ici à la Côte d'Ivoire et même pas toute la région d'Afrique de l'Ouest.
Que retenir du projet Planète Gold? Aka Safo, coordonnateur général des programmes et projets, directeur national du projet Gold Plus, par ailleurs président du comité de pilotage, fait des précisions.
Le projet Planète Gold fait la promotion de l'exploitation minière artisanale de l'or sans l'utilisation du mercure. Le mercure est un produit chimique hautement toxique pour l'environnement et pour la santé humaine.
Ce projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial est à sa troisième année et va durer 5 ans.
On met le cap sur Bogué, dans le département de Daloa, où l'Institut africain pour le développement économique et social, INADES Formation, a organisé dans plusieurs localités du Haut-Sassandra une campagne d'information et de sensibilisation sur l'utilisation abusive et dangereuse des pesticides chimiques dans l'agriculture. Cette campagne, dénommée Conscience alimentaire, vise à faire prendre conscience de l'urgence et la nécessité de promouvoir une agriculture saine et biologique pour la santé des populations, la préservation de l'environnement et surtout une économie plus résiliente et durable en Côte d'Ivoire. Compte rendu signé Jean-Noël Kwame.
Le président du conseil d'administration de l'INADES, Tétiali Digbeu, a invité les populations et les gouvernants à une prise de conscience et des décisions vigoureuses face aux pesticides et herbicides chimiques dangereux pour la santé et l'environnement.
L'utilisation abusive des pesticides est un danger. Il y a des femmes qui ont fait des enfants mal formés. Il y a des problèmes d'insuffisance rénale, pulmonaire. Si le sol est intoxiqué, tout ce que vous retirez, c'est pour vous empoisonner. Faites attention à ce que vous mangez. Les lois existent. Leur application, peut-être qu'il faut sévir.
Des solutions alternatives aux engrais et autres pesticides et herbicides dangereux ont été présentées dans plusieurs localités. Dongo Fulgence, chargé du plaidoyer et coordonnateur de projet à INADES Formation.
Nous avons mis en place du biofertilisant organique, le Bokashi. On peut l'appliquer en culture industrielle comme vivrière. En plus de nourrir la plante qui consiste à la protéger contre certaines attaques de bio-agresseurs. L'agroécologie, c'est une nécessité pour asseoir un système agricole plus durable, plus performant et avoir une alimentation saine et durable de nos populations.
Jean-Paul Sikeli, secrétaire exécutif de la Coalition pour le patrimoine génétique africain, et Noël Tré, président régional de la plateforme d'action nationale pour l'agriculture familiale en Côte d'Ivoire, ont également appelé les gouvernants et les populations à des actions fortes en faveur de l'agroécologie et l'interdiction des pesticides et herbicides chimiques dangereux pour la santé des populations. Jean-Noël Kwame, de retour de Bogué, Radio de la Paix.
Après Bogué, on se rend à Bouna où l'Union de la jeunesse communale en collaboration avec l'Amphia Auto-École organise une opération de permis de conduire à coût réduit dénommée « Un jeune, un permis de conduire ». Le lancement de cette campagne a eu lieu la semaine dernière au foyer des jeunes en présence de tous les présidents de jeunes des quartiers et des villages périurbains de la commune de Bouna. On en sait un peu plus avec Jérôme Kwasi, notre correspondant dans le Bounkani. Nous y reviendrons sur, nous reviendrons sur cet élément dans la suite de cette édition. On prend la direction d'Odiéné où la 41e promotion des élèves maîtres d'Odiéné viennent d'achever leur formation. Et bien avant de quitter Odiéné, ils ont tenu à marquer d'une pierre blanche leur passage dans la capitale de la région du Kabadougou en organisant une journée destinée à la salubrité des services publics. Suivons le compte-rendu de Bakary Touré-Labou. Passe notre correspondant sur place.
La promotion sortante du CAFOP de Diéné a tenu à marquer d'une pierre blanche son attachement à la capitale du Kabadougou en 1600 dans la salubrité de la cité. Mazan Kwasi Athanase, président de la présente promotion.
Nous sommes une promotion sortante. Donc, à l'occasion, il convenait que nous posions une action qui va marquer notre considération, notre respect pour les institutions. Alors, nous avons décidé de venir nettoyer la préfecture de Guinée.
Pourquoi avoir ciblé les institutions publiques ? Élément de réponse.
Parce que nous estimons que dans ces administrations publiques, la tâche est tellement énorme. Et cela fait qu'ils n'ont pas toujours suffisamment de temps à consacrer au nettoyage. Pas parce que ce n'est pas important, c'est important, mais il y a des tâches qui paraissent un peu plus importantes.
Cette action sociale menée par les élèves maîtres de la 41e promotion a également été élargie à l'espace vert du Cap-Fop, tout comme à l'enceinte du CHR, le centre hospitalier régional.
Josiane Yao, nous ne sommes pas au dîner seulement pour la formation. C'est pour aussi le social, montrer à Odiéné même que le CAFOP supérieur d'Odiéné s'implique dans toutes les activités ici à Odiéné.
Il est à noter que cette action sociale marque le début des festivités de fin de cycle de la 41e promotion des élèves maîtres du CAFOP d'Odiéné. Bakary Touré-Labasse, Odiéné, Radio de la Paix.
Nous ouvrons la page de l'actualité internationale qui nous conduit en Algérie où le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé ce jeudi son intention de briguer un second mandat à 2 mois de la présidentielle, mettant fin à un suspense qui n'était plus un. Le président Tebboune, âgé de 78 ans, dont le premier mandat s'achève en décembre prochain, avait été élu en 2019. En mars, il avait annoncé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le 7 septembre. La liste des candidats retenus sera donc annoncée le 27 juillet prochain et le Conseil constitutionnel tranchera pour les recours le 3 août, rapporte l'AFP. Et puis, les États-Unis ont annoncé jeudi des nouvelles sanctions visant des extrémistes israéliens accusés d'attiser les violences en Cisjordanie occupée. Aujourd'hui, nous imposons des sanctions à 3 personnes et 5 entités israéliennes liées à des actes de violence contre des civils en Cisjordanie, a indiqué le département d'État dans un communiqué précisant notamment avoir ciblé l'organisation Leava, nous apprend l'AFP. C'est sur cette information que prend fin cette dernière édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Le rappel des titres. Célébration ce jeudi de la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a invité les actuels et potentiels lanceurs d'alerte à les rejoindre dans cette lutte contre ce fléau. Et pour sa part, le Premier ministre a rassuré quant au respect des engagements internationaux en la matière. 18h passées de 19 minutes partout en Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous avec l'actualité demain, vendredi à 7h. Dans quelques instants, le magazine Santé pour tous, présenté par Paul-Bénédicte Boulou. Excellente suite des programmes sur Radio de la Paix.
Santé pour tous. Santé pour tous. Santé pour tous, tous les jeudis, Paul-Bénédicte Boulou. Interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.